Peser le demi-livre de farine sans compter la pelle et les déposer sans poussière dans les minces sacs en papier. Prenez pour moi les allures d'une petite aventure. Je finis par avoir l'œil pour mesurer la quantité nécessaire de farine, de tourteau, de sucre ou de maïs à mettre dans la louche au reflet d'argent, afin d'amener l'aiguille de la balance juste sous les 8 onces ou la livre. Quand je tombais absolument juste, nos clients exprimaient leur admiration. Sister Henderson a des petits-enfants drôlement malins, ça pour sûr. Si je m'étais trompée en faveur du magasin, les femmes au regard d'aigle disaient « Remets-en-moi donc un peu dans le sac, petite. Essaye pas de faire de bénéfice sur moi. » Je me punissais alors sans bruit, mais avec constance. Pour chaque faute, je me mettais à l'amende d'un kiss, la délicieuse bouchée au chocolat enveloppée de papier d'argent que j'adorais plus que tout au monde. Excepté Bailey. Et peut-être les ananas en bois. Mon obsession de l'ananas faillit me rendre folle. Je rêvais du jour où, quand je serai grande, je pourrais m'en acheter un carton entier rien que pour moi toute seule. Bien que les anneaux d'or sirupeux trônassent dans leurs exotiques emballages tout au long de l'année sous nos étagères, nous n'y goûtions qu'au moment de Noël. Maman se servait du jus pour confectionner des cakes presque noirs. Et puis, elle tapissait d'ananas des poils de fonte au cul noircis de suie afin de cuire des gâteaux renversés bien riches. Bailey et moi en recevions une tranche chacun, et je me promenais avec la mienne des heures durant, effilochant l'ananas jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que le parfum sur mes doigts. J'aime à croire que mon désir d'ananas était si sacré que je ne me serais pas permis d'en voler une boîte, chose possible, pour aller la manger toute seule dans le jardin. Mais je suis certaine que j'avais dû mesurer le risque de me faire repérer par l'odeur et que je n'eus pas le courage de le prendre. Jusqu'à ce que j'ai 13 ans et que je quitte l'Arkansas pour le bon. Le magasin fut mon endroit favori. Abandonné et désert le matin, il ressemblait au cadeau encore empaqueté d'un étranger. En ouvrir les portes, c'était comme dénouer les rubans du présent inattendu. La lumière s'y faufilait tendrement. Nous faisions face au nord. Il s'étalait à son aise sur les étagères de maquereau, de saumon, de tabac et de fil. Elle tombait droit sur la grande barrique de lard, et à midi, on était la graisse fondée en une soupe épaisse. Chaque fois que j'entrais dans le magasin l'après-midi, je sentais qu'il était fatigué. Moi seule pouvais entendre son souffle ralenti par son travail à moitié accompli. Mais juste avant l'heure de coucher, quand tous les gens avaient cessé d'aller et venir, de discuter leurs additions ou de plaisanter sur le voisin, ou encore simplement de passer pour dire « Un petit comment ça va tout le monde à Sister Henderson ?» La promesse d'un matin magique envahissait de nouveau le magasin et se répandait sur toute la famille en vagues vivifiantes. Maman sortait des paquets de biscuits craquants et on s'asseyait autour de billots à viande au fond du magasin. Je coupais des oignons en rondelles. Bailey ouvrait 2 ou 3 boîtes de sardines et laissait couler leur odeur de l'huile et de bateaux de pêche sur une assiette. C'était notre souper. Le soir, quand nous étions seuls ainsi, oncle Willie ne bégayait pas, ne tremblotait pas et ne donnait aucun signe qu'il eût une affliction. Il semblait que le calme de la journée à sa fin constitua une assurance que l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants, les noirs et les infirmes tenait toujours.